بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي، يسعدها تقديم الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله من مصر الحبيبة. في كلمة بخصوص ما حدث في فرنسا، والله المستعان، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العلم السلفيون في بلاد كندا، في كندا وفي البحر
نعم
الكاريبي، في البحر الكاريبي. نشرف بكم ونسعد بكم، وكلما أسمع كلمة سلفي في بلاد أوروبا وأمريكا أدعو الله لكم التوفيق والسداد، لأنك أنتم الذين تعرفون الناس بالدين الصحيح. أنتم يعني رسلنا يعني أو سفراءنا في هذه البلاد، فأنصح نفسي ولكم وأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد، وأن تتحروا الدين الصحيح ولا تعملوا أي عمل جماعي أو خاص يحتك بما يختص بالناس أهل البلاد عندكم إلا بسؤال أهل العلم، وأنتم الحمد لله على ذلك. ولكن هؤلاء الذين حصل منهم هؤلاء شيء الذي حصل من هذا الحادثة المروعة ليسوا هم منكم، ولازم يفهموا الناس في فهم ده إن دول الأمة فيها سفهاء، أمة الإسلام فيها أفاضل وفيها سفهاء، لا يقول الله أن قوم من سفين واتخذ دين الخوارج دينا لهم، وإن السفين لم يأخذ بالإسلام الصحيح حتى ينسب المسلمين أن هم على الدين الصحيح. ونفس كل الدول وكل البلاد حتى الكفار فيهم المتمسك بدينه وفيهم السفيه، كل الدول كده، كل الناس أصحاب الديانات أو أصحاب المذاهب المخالفة للإسلام عندهم سفهاء، يقروا هذا ولا ما يقروا؟ لما نحن كل شيء يسموه الإسلام ولا بعد سفهاء، والإسلام يقرهم، مش بيقول الكلام ده عشان نبرأهم من غير دليل، لا. أهل العلم اللي هم عندهم العلم الخالص من الكتاب والسنة، العلم الأصيل، هم الذين يحكمون في هذه القضايا، لا عامة الناس ولا الناس الذين عندهم علم صحيح. كم الناس عندهم علم في أمة الإسلام وليس صحيحا مخلوطا، وفي ناس ما عندها علم، وهؤلاء الذين فعلوا هذا أظنهم على طريقة الخوارج، وأتأكد من ذلك، لأن أهل السنة يعملون ذلك بأي حال من الأحوال، خصوصا وهم يعيشون في بلاد الكفار، والكفار بيعطوهم المساكن ويعطوهم الفلوس وشغلوهم ويدوا بلادهم فلوس، وكل هذا لازم يراعوا أكثر وأكثر، لأنهم يعيشون أرزقهم بفضل الله من الله ثم عن طريق الناس الموجودين هناك. ينكروا ذلك وكيف يقول لك سفهاء بالعقول كمان، سفهاء الأحلام وسفهاء الأخلاق، لو كان عندهم حتى عقل ما كان يعملوا كذا أبدا. كيف الناس اللي بدهم الفلوس يقتلوهم، وكيف يعملوا هذه العربدة في بلاد الناس اللي بيعطوهم الفلوس وبيقوهم عندهم مهما حصل من الأشياء؟ دي اللحظة الأول الشعور هؤلاء الناس وعدم تقديرهم للناس اللي بيدوهم بالفلوس، هم الكفار وكل شيء، ولكنهم هم الذين يعطونهم، هم الذين يقولهم، هم الذين يساعدونهم لمصلحتهم، لكن مصالح دول يستفيدوا ودول يستفيدوا وهكذا. أما عن هذا العمل السفيه، العمل الذي هو يعني يعتبر زي قطاع الطرق، فليس هذا من سمات المسلمين أبدا بأهم الأحوال، ولو في واحد حتى كافر عاقل يقول هذا الكلام اللي بقوله، ولكن في تعصبات ضد الدين وحتى يسووه سمعة المسلمين سمعة الإسلام. ودول قليل، كم واحد من الناس فرنسا، كم فرنسا من المسلمين؟ ملايين. إذا سفها كان سفها 10 و20 و30 100 ألف سفها، ونحن لا نقرهم على ذلك. أما عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سب في حياته، ألم يقل اليهودي السلام عليك يا محمد؟ كذلك كنت أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سب في حياته، دخل اليهودي وقال السلام عليك يا محمد، والسيدة عائشة رضي الله عنها سمعت قوله وفهمته فقالت عليكم السلام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لا يكون هكذا الرد. قال عليكم السلام، قلت صلى الله عليه وسلم إذا كان يخفي السلام يعني الموت والهلاك، فإذا كان تخفيض السلام الموت والهلاك فيبقى عليكم، إذا كان تخفيض الإسلام عليكم، وهكذا. فهذه هي الحكمة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي أتاه الله الحكمة، بل أحكم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعقلهم وأزكاهم وأتقاهم وأخافهم من الله سبحانه وتعالى وأحكمهم. فهذه كلها يكون نحن تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن جاءهم جميل أم جاءهم أبي لهب عليه لعن الله وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مذمم يعني هو ليس محمد مذمم في ثبات الذم، ليس هو محمد في ثبات الأخلاق الفاضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينتقموا له الصحابة أو بعضهم، فقال دعوها تقول مذمم وأنا محمد، يعني سيلقي يعني يستخطب غضب الكفار حتى ويقول كلام يعني ليس مقصودا به، ويعرف انه مقصود، وان قال ذلك حتى يعني يكيدهم كيدوهم ويزداد غضبهم ويزداد شرهم، عفوا الله، ولكنه يستخطبه عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ولا يعاب على ذلك وكذا وغير ذلك. وربنا يقول لتبعون في أموالكم وأنفسكم ولسمعون الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا عام للمؤمنين لأن جاءوا بالدين الصحيح، والناس دول ضد الدين الصحيح، الشرك ضد التوحيد، ضد الشرك، هم عندهم الشرك. فكيف يأتي بإنسان يقول الرسول ويكذب رسالته ويحاول أن يغير يقلب الموازين بتاعتهم ويغيرهم من شيء لشيء تاني مما ورثوه من الآباء والأجداد؟ فده كتير عليهم. فالمسكين بالآباء والأجداد والعادات والأفكار والعقائد الآباء والأجداد، فهذا صعب عليهم جدا وهكذا. فكيف يقلب عليهم الحياة ويغير نظام حياتهم؟ هذا كله موجود. وعند الكفار كذلك يكرهون المسلمين لهذا الحد، لأن ناس كتير كفار والمسلمين قلة يعني بالنسبة لغيرهم، الكفار أكثر في العالم. وقبل ذلك ربنا كان أكثرهم مشركين سابقين، وهكذا سنة الله في خلقه وهكذا. فهذا كله يعني لا يصح أن نقف هذه الوقفة، وكمان في نفس الوقت ننصح أولئك أصحاب الجريدة أن يسيروا سيرة المسلمين ويخرجوا السفهاء منهم، يتصدى لهم السفهاء، لن يأخذوا من هذا عبرة. لأن أعز شيء عندي كل واحد دينه وخصوصا المسلمين، فكيف تطعن في ديني؟ هذا مخطئ، وهذا إنسان سفيه كذلك. كيف يكون رجل عاقل من الكفار وبعدين يكلم يطعن المسلمين في دينهم وبين بأعظم شخصية، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالدين الصحيح، أو الصحابة أو غيرهم ممن هم أئمة في الإسلام. فكل هذا لازم يكون يوضع في الموازين، والناس الأستاذة يوصون هؤلاء الناس بعدم التعرض، يمكن يكلموا منهم بعضهم يسبوا الإسلام، ولكن لا ينشرون هذا حتى يقوموا يتصدى لهم السفهاء ويعملوا فتنة ويقتلوا ناس منهم ويسيئوا إلى المسلمين ويسيئوا إلى أنفسهم. هذا كله. فالذي نقوله الآن بعد كل هذا الكلام أن هذه عمل سفهاء، والإسلام لا يقرهم والدين الصحيح لا يقرهم، وقبلك إنما يعني يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويأكلوا أمرهم إلى الله ويكتبوا مذكرة فيها كلام طيب وفيها تأنيب بالآداب وفيها الشكوى من أمثال الأشياء، يعني تقولوا للدولة الفرنسية أنتم بيسيبوا الناس يعملوا فتنة في بلاد فرنسا وإحنا لا نوافق على ذلك، الإسلام لا يوافقنا على ذلك، اتصدى للسبهاء لسبهاء. فيستعوا أنت تكتب كلام وتصدى لأن كل واحد وزير خارجية بالدبلوماسية بلد يتكلموا عليها في بلد أخرى فيقول لهم لا بصحش، إحنا كلنا ناس لنا طريقة خاصة بنا وأنتم ما تكلموش عليا بهذا كلام سياسي شرعي لا مانع ولا بأس. هذه نصيحتي للإخوة المسلمين، لا يسبوا أحد. ما أقول على الرسول هذا الطيب، أقول عليه رسول كذبوا برسالتي فكيف لا يتكلمون عليه؟ ولكن مع ذلك نقول دون هل تبهاء بتوعكم تبهاءكم يفعلون ذلك ويسيرون استعراتهم السبب في هذا الأمر، لولا يعني أراد الله بأن يسوروا أم أن يسبوا الرسول أو يسبوا الإسلام ما قامت هذه الفتنة. فمس يلوموا على بس السفهاء بتوع المسلمين ولا يلوموا على السفهاء الآخرين الذين سالوا السائرة. وعندنا نقول في مسألة الكلام الحكم بتاعة المسلمين الفتنة نائمة ألعن الله ما يقضى فتنة نائمة بين المسلمين فكيف تقضونها؟ فنصيحتي للمسلمين تقوى الله، ولازم نقول بجد وبقوة أن أولئك ناس مارقين ناس مخالفين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى خيرا بالذميين أوصى خيرا بهم، واللي يظلم يذمي يعني يهودي أو نصراني فهو ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فكيف نعمل ذلك؟ فكيف وهل المسلمون عمل ذلك؟ والعمل ابن عاصم دخل مصر كسر الكنائس حرقها وهم نصارى، فماذا عمل ابن عاصم؟ سياسة شرعية كل يديهم طلباتهم بس يتأخذ منهم الجزية وخلاص ويحسن معاملتهم كأمير لهم، لم يحصل ذلك. والبلاد الثانية دخل في أرمينيا وغيره أما حكم المسلمين ما قبل يقول النصارى نفسهم شهدوا لهم وقالوا ما هناش حكم زي الحكم ده. بالحاجات دي كلها معروفة يعرفها الساسة ويعرفها الناس اللي بيطلعوا لأهل العلم وأخبرك، ولكن السفهاء لا عقل لهم ولا فهم لهم وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم السابقين، قالوا مجنون، قالوا ساحر، أخبرك قالوا ما بتاع كاهن، وكل هذه سبوه رسالة هو أذن، أخبرك الناس ما لهش رأي بيسمع كلام الناس وبيأخذ بكلام الناس سفهاء، كلام ده بتاعهم كله. فهذا كله يبين لنا أن نحن براء من هذا العمل الخبيث، ونشكو الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، ونسأل ربي أن يهدينا من شر السفهاء وشر الناس الذين لا يفهمون الدين الصحيح ويسيرون على أنفسهم وإلى دينهم. وهذا بالله التوفيق والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا
أو سيئة حاجة تقول لا أقول هالك تاني
أنا سمحت معلش يا شيخنا كنت سريع شوية علي النهاردة الله مستعان
فضل ناس فضل أنا أطورت عليك المرة دي معلش
ولا يهمك جزاك الله خير. في آية ذكرتها يا شيخنا وأنا متأسف مسألة من قال للرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله يا مذمم
مؤمن جميل مات بلهب
أبو جهل
تقول مذمم يعني أكثر من كده الصحابة عاوزين يقتلوها أو يعملوا فيها شيء هل أرضهم هل تركهم قدامه وإيش وحطها معنا سنة الجزور أنت عارف ده كله ويمسكوا المسلمين يجلدوهم ويسحلوهم يقتلوهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر حد يتحرك ضد الناس دي؟ كل هذا
نعم مزمم يا شيخنا معناها ايه بالضبط؟
نعم
مزمم معناها ايه؟
مزمم يعني مذموم، محمد يعني صاحب الأخلاق الحميدة ومزمم صاحب الأخلاق المذموم ضد محمد يعني.
اللهم صل وعفو عنا.
انت قول وتحبت ايش يعني
والآية شيخنا قلت
تقولون في أموالكم وأنفسكم سورة آل عمران اسمع عبش استكام ساعة واسمعنا
لأنهم
حبيكم الذين أشركوا أذى كثيرا وانت حسنة تتقوا من ذلك من عزم الأمور أظن الآية كيف
نعم لا تبلونهم
بأموالهم في أموالكم وأنفسكم
لا تبلون
لعامة ولا تسمعون من يقول كتابة من قبلكم إن أشركوا أذى كثيرة
يدخلون في
أموالهم. أنتم أحسنوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أظن كده.
طيب ممكن تجد على العيدين لو سمحت
الشيخ. داخل فيها سب الرسول. آه ده فيها داخل فيها. وسب المؤمنين وسب أبو بكر رضي الله عنه. داخل فيه. تبلون في أموالكم أنفسكم أنفسكم. وأصبحنا من يوم تكتبهم خبيكم وإن أشرقوا أذى كثير.
ما زال الصوت عندي مش عارف. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وبعدين الآية تروح مني.
لتبلون بعد عمران تبلون في أموالكم وأنفسكم. تحب أطلعها لك أطلعها لك. عاوز بس أبحث في القاموس.
خلاص إن شاء الله.
186
جزاك الله كل خير يا سليمان. أيها الذين في أموالكم أنفسكم وتسمعون من الذين أوتوا قبلكم الذين أشركوا هذا الكثير.
لو كتبوا هذا الكلام بالسياسة الشرعية للرؤساء لكان لها تأثير كبير عندهم مهما كان، ولكن هذه عمل السفهاء اللي عملوه ضايع كل شيء وصار سائرة الناس صارت سائرته. سامعني بقطعك عشان بنسى الكلام. هم يسبون الله، هم الكفار يسبون الله، عندنا يسبون الله من ولد. هل نحن هل قام عليهم عمر بن العاص وقتلهم وقال لهم بيسبوا الله أشد من سب الرسول؟ معروف الكفار بيسبوا الله عندنا في شرعنا، يعني كيف يدعي الله ولد على حسب القرآن ما يقول يعني. فهذا كله دليل أن المسلمين لا يفعلون هذه الأفعال أبدا، ويترك كل واحد في دينه وعقيدته وخبالك مع دفع الجزية ودفعون عنه، واللي المسلم يشيء لهم يرد له حقه أو أكثر من كده، ماذا يدل أكثر من ذلك؟ وهكذا
وهذا
عندهم في, 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 في النصارى واليهود، ناس يعرفوا الدين بتاعهم وناس ما يعرفوش الدين، في سفهاء عندهم أكثرهم سفهاء. فهذا يعيب دينهم اللي هم بيعتقدوه في نظرهم. لا يعيبوا، متمسكون بدينهم برضه ولو كانوا خالف للإسلام. هذه كلها حجة عليهم لا لهم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كمان سب في عرضه اليهود سبوه في عرضه. هل وبعد كده المسلمين بعضهم قال نفس كلام اليهود، مشى وراء الناس اللي يقولون سبوا عائشة؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاهم الحد، قام عليهم الحد للمسلمين، لم يفعل باليهود، لم يأتي بيهودي وقام عليهم الحد اليهودي معروف. إنما المسلم في دين عنده دينه يديله حد، يفرض عليه حد إذا سب محصنات المؤمنات بدون دليل شرعي. فهذا كله يبين.
الشيخنا يعني اللي فهمته هنا إذا المسلم والعياذ بالله سب أمهات المؤمنات يقام عليه الحد، أما غير المسلم فلا يقام عليه الحد.
لأنه يهودي يعني ليس مسلما. هل سب قام على حد على حد من يهود؟ سب ذلك في قصة الإفك ما حصلش، لما قام حمنا بنت يحيى رضي الله عنها وحسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن أساسة قيم عليهم الحدود سب المحصنات المؤمنات. لكن فين بقى اليهود نبي بن سلول اللي هو قال اللي عمل هذه الفتنة واتهم هذا الاتهام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا حبسوا سبوا ولبس له عذاب أليم في القرآن، قال لذلك كبروا منهم له عذاب أليم. أليس كذلك ولا فيه شيء مخالف؟
نعم يا شيخنا، بس حاولت أفهم النقطة كويس. جزاك الله
نعم
كويس. بس حاولت أفهمها كويس يا شيخ عشان ما لخبطش في الترجمة.
يعني عيد تاني كلام؟
لا إن شاء الله ما في داعي على بارك الله فيك.
فقلت قلت لهم يعني لازم الحكومة تضرب على الفرنسية، تضرب على يد الناس دول الذين يسيرون الفتن في بلادهم ويحاسبوهم ويطعنوا الناس في دينهم، المسلمين في دينهم.
لا ما قلت هذا يا شيخ، ما
قلت؟
لا أنا ما قلته.
دول المسلمين عايشين هناك فلازم تتبوهم في دينهم، لازم كل واحد يسيبه بدينه ولا يسكت، هم كمان ما حد يتكلم على دينهم لا يسكتون. وفي ناس من عندنا سفهاء تأثرهم يعني أوصل بهم إلى أهل السفهاء، هم لو أثروا الفتنة ربنا لم يرز ذلك ما حصل هذا الشيء، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخنا.
يخدموا وكيلوا كلام السياسي، يبعثوا الحكومة وزير الداخلية وزير الخارجية ويفهموا الأذية ويصحش يكون ناس يطعنوا في دين ناس، هم عندهم كل واحد حر الدين، فكيف يسبوا دين الإسلام ويتركوهم؟ لا لازم يضربوا على أيديه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، استودعكم الله، كنا وفقنا من فضل غيركم أنفسنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام.
واسمعوا لي يا إخوة، أقول أن أنتهي كلامي بآية كريمة لهذا المعنى الذي قلته أخيرا. أعوذ بالله من همزي ونفسي ونفسي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قبل على المشركين ما تدعوهم إلى الله يستجب إليه من يشاء ويجب إليه من ينيب، سورة الشورى أظن. ابحثوا سأل عليكم من الدين واصل به نوحا والذي أوحينا إليك واصل به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قبل على المشركين ما تدعوهم إليه الله يستجب إليه من يشاء ويجب إليه من ينيب. هذه الآية الكريمة تبقى يقيموا الدين، ما يقيموا الثورة، يقيموا المظاهرة، يقيموا قتل الناس، لا يقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فأولئك غيروا بدل نعمة الله كفرا هؤلاء، وأساءوا إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى دولهم. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، استمعوا إلى المسلمين، والصلاة والسلام في أمان الناس.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Donc, on va traduire maintenant la parole de notre cheikh, le cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, un des savants du Caire, yani, qui nous a parlé ce soir au sujet des événements qui se sont produits, qui se sont produits durant la semaine, l'assassinat de 12 personnes dans les bureaux du magazine Charlie Hebdo, le massacre et l'atrocité qui a été accomplie de la part de certains individus parmi les gens qui se prétendent musulmans ou qui se disent faisant appartenir aux musulmans et qui ont fait cet acte soi-disant pour venger l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les frères du bureau Muwahidin Publications ont organisé cette conférence avec le cheikh Hassan pour pouvoir justement avoir une clarification de la part de ce grand cheikh et pour qu'il puisse nous donner un peu d'orientation et de clarification sur la façon dont les musulmans doivent agir envers les non-musulmans dans les pays comme la France et autres. Et donc, je vais traduire pour vous maintenant un résumé de ce que le cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna a mentionné durant cette conférence et on va donc inshallah essayer de profiter de ces paroles de sagesse et de lumière et de connaissance que le cheikh a partagé avec nous. Donc premièrement le cheikh il a commencé avec le nom d'Allah, hein, Bismillah Rahman Rahim, et il a dit Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous, et il a dit c'est un honneur pour moi mes frères et mes sœurs de m'adresser à vous. Et je vous dis bienvenue et bienvenue aux frères et aux sœurs qui sont au Canada et ceux qui sont également dans les dans les Antilles parce que les frères de Mouahidin Publications sont actuellement dans les îles de Trinidad et Tobago. Donc, il leur passe le salam. Et il dit ensuite que il est toujours heureux d'entendre lorsqu'il y a des musulmans qui sont en Occident, soit en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs, qui sont sur la compréhension des salafs et qui sont salafis. Et il invoque toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le succès et la droiture. Parce que ce sont des gens qui ont accepté la religion dans sa compréhension qui est correcte, hein, et qui suivent la religion musulmane dans sa façon authentique, dans sa compréhension authentique. Et ceux qui ont agi de la façon dont ils ont agi en assassinant des individus dans le bureau de ce magazine, ils ne font pas partie de vous et ne suivent pas cette voie. C'est-à-dire, ils ne font pas partie des musulmans qui sont salafis et ils ne font pas partie de ceux qui suivent cette voie, c'est-à-dire de ceux qui, lorsqu'ils ont une question ou lorsqu'ils ont besoin de comprendre quelque chose de la religion, ils retournent aux hommes de science et aux savants pour savoir la façon correcte d'agir et pour savoir comment se comporter. Parce que c'est la façon dont yani, les salafis font lorsqu'ils ont une question dans la religion. Et donc, ceux qui ont agi de la façon dont ils ont agi en tuant ces innocents sont en réalité des idiots, des faibles d'esprit. Hein? Et donc, ils suivent plutôt la religion et la voie de la secte qu'on appelle les Khawarij. Et ce sont des faibles d'esprit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, les Soufaha. Et quand on regarde, par exemple, les gens qui suivent d'autres religions, que ce soit chez les chrétiens ou chez les juifs, ou les gens qui suivent d'autres voies parmi les gens des autres religions, on remarque que parmi eux, il y a également des gens qui suivent leur religion correctement et d'autres qui font des actions qui sont incorrectes aussi. Et donc, on ne blâme pas les religions de ces gens-là pour les actes commis par ceux d'entre eux qui ne respectent pas leurs enseignements et leur religion. Et donc, c'est la même chose pour les musulmans. Si un musulman fait des actions qui sont en contradiction avec les enseignements de l'islam, eh bien, il n'est pas permis dans ce cas-là de blâmer l'islam pour ses mauvaises actions, mais plutôt, il faut blâmer la personne qui a agi de cette façon. Et y en clarifier et expliquer que les actions qu'ils ont commises, c'est quelque chose qui est incorrect. Et dans des questions de ce genre, il est du devoir des musulmans de retourner aux savants de l'islam pour qu'ils jugent dans ces questions-là et dans ces sujets pour savoir si elles sont correctes ou elles sont en contradiction avec l'islam et avec la charia. Donc, ceux qui ont fait ces actions-là, tout indique que ce sont des gens qui font partie de la secte des Khawarij. Et lorsqu'on regarde l'attitude et le comportement qu'ont eu ces gens qui ont assassiné ces individus parmi les Français qui étaient dans le bureau de ce journal, eh bien, il faut bien comprendre que déjà, ils sont les musulmans qui vivent en France sont chez les non-musulmans et ils vivent chez eux et souvent, ils vivent même avec l'aide économique et l'aide financière que les gouvernements des Koufars leur donnent. C'est-à-dire qu'ils vivent parfois aux dépens de l'argent que donnent les aides gouvernementales et les aides financières qui sont données à la population dont eux font partie. Et donc, si on se basait uniquement sur la raison, sans même tenir compte de la religion, on comprendrait déjà en partant que d'agir de la façon dont ils ont agi, c'est quelque chose d'inacceptable. Puisque tu ne peux pas vivre chez quelqu'un et puis il te fait du bien et il te donne même de l'aide financière pour vivre. Et puis, toi, de ton côté, par la suite, tu réponds à cela par des agressions et des attentats. Donc, si c'était juste du point de vue de la raison, eh bien, ce serait suffisant pour comprendre que cette attitude-là et ce comportement-là est inacceptable. Alors, que dire lorsqu'on sait que notre religion nous interdit d'agir de cette façon-là et de faire ce genre de gestes? Par exemple, eux, ces koufars les aident et leur donnent des aides financières et de l'argent, et eux, en retour, ils les tuent. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'action des musulmans, et surtout si on tient compte et on prend en considération qu'il y a entre eux et nous des ententes et des accords. Et donc, il faut que les musulmans prennent en considération ces ententes et ces accords de paix et qu'ils les respectent, hein, puisqu'ils ont donné leur parole dans ces choses-là. Et ces gens qui agissent de cette façon-là, eh bien, ce sont des gens qu'on regarde, ils n'ont pas de science de la religion musulmane. Et combien donc de ce genre d'ignorants, ce genre de personnes qui n'ont pas de connaissance de la religion musulmane, existent parmi nous? Ils sont très nombreux. Et combien parmi ceux d'entre nous qui ont de la science, mais ne font pas toujours les bonnes actions? Donc, il est très important pour les musulmans d'apprendre leur religion correctement et de l'appliquer correctement pour justement comprendre et appliquer la religion de sa meilleure façon. Ensuite, il faut comprendre également, comme le cheikh l'a expliqué, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, a été insulté par les koufars, par les mouchriquins, par les juifs. Et à chaque fois, il n'a jamais répondu de la façon en commettant des actes de violence ou des meurtres. On regarde par exemple le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu le hadith dans lequel un juif est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit « Assalamu alaykum ».« Assalamu alaykum » qui signifie « que la mort soit sur toi hein, » et la maladie, « que la mort soit sur toi ». Et Aisha radiallahu anha, quand elle a entendu le juif qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Assalamu alaykum » parce que « Assam » ça ressemble à « Salam hein, ». Donc, il le disait pour essayer d'insulter, mais d'une manière subtile pour que ça paraisse pas. Mais Aisha radiallahu anha a compris que ce juif voulait insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Parce que Aisha radiallahu anha a répondu à ce juif en lui disant « Assalamu alaykum wa la'na » c'est-à-dire que la mort soit sur toi ainsi que la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de répondre de cette façon. Et lui a dit « Si quelqu'un t'insulte ou te dit du mal, tu ne lui réponds pas par le mal qu'il t'a répondu ou plus, mais plutôt qu'est-ce que tu dis ?» Si un de ceux-là te donne le salut, tu lui dis « wa alaykum » seulement, c'est-à-dire « et sur vous ». Donc, si les gens du livre, les juifs ou les chrétiens, te disent réellement « assalamu alaykum », que la paix soit sur vous, tu leur réponds « wa alaykum ». Et si ils t'insultent, tu leur dis « wa alaykum ». Et ça s'arrête là. Tu vas pas rajouter dans le mal et dire des mauvaises paroles et dire des insultes. Hein? Donc, les gens qui ont agi de la façon qu'ils ont agi en tuant les gens dans le bureau du magazine Charlie Hebdo. Et en réalité, ils ont agi comme, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, tariq, c'est-à-dire comme des brigands, et comme des bandits. Hein? Et donc, c'est clair et c'est certain que parmi les musulmans, il y a des extrémistes et il y a des gens qui dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des groupes et des sectes égarés comme la secte des Khawarij. Mais ces gens-là sont des gens qui ont dévié et qui ont contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas suivi la sagesse de ses enseignements. Hein? Donc, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas enseigné de les insulter, mais plutôt, il nous a enseigné d'agir avec sagesse parce que c'était le plus pieux et il n'a jamais insulté les gens ou les a jamais traités de cette manière-là. On a également l'exemple des mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, soit que c'était Abu Jahl ou Abu Lahab ou sa fille ou sa femme, la femme de Abu Jahl, hein, Umm Jamil, elle insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'appelait Mudhammam. Et Mudhammam, c'est le contraire de Mohammed. Mudhammam, c'est le contraire de la signification du mot Mohammed. Mohammed signifie celui qui est glorifié. Tandis que Mudammam, c'est-à-dire celui qui est blâmable, celui qui est blâmé. Donc, elle, pour l'insulter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, ah, Mudammam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les laissait l'appeler comme ça. C'est-à-dire, il ne se mettait pas en colère, hein, lorsqu'il faisait ça ou lorsqu'il disait ça. Même que les sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu, ces insultes ou cette femme appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mudammam, ils étaient fâchés, hein, qu'on insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-les. Ils insultent Mudammam alors que moi je suis Muhammad. En voulant dire, c'est pas moi qui l'insulte, ils insultent quelqu'un qui s'appelle Mudammam et c'est pas moi. Donc laissez-les m'appeler Mudammam parce que c'est pas moi de toute façon. Et juste une parenthèse ici en même temps par rapport à qu'est-ce que le cheikh a mentionné ici à ce point-là, on pourrait dire la même chose par rapport aux caricatures. C'est-à-dire que les caricatures qu'ils font, ils font un dessin de quelqu'un et ils disent « ça c'est Mohammed ». Mais nous, on sait très bien que personne n'a vu ici, hein, personne d'entre nous, on a vu l'image ou la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait très bien que l'image et le dessin qu'ils ont dessiné, ce n'est pas du tout l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il avait la plus belle image et la plus belle apparence, comme il a été décrit par les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas dire que les caricatures que ces gens-là ont dessinées, que ça c'est réellement l'image ou l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, ça, c'est totalement le contraire de l'apparence et de l'image réelle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en réalité, même par ces dessins, ils n'ont pas du tout représenté l'image ou l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on ne devrait même pas porter d'attention ou donner d'importance à ce genre de choses-là. Donc, fin de la parenthèse ici. Je reviens avec les propos du cheikh ici ensuite. Le cheikh, il dit, il a cité un verset. Le cheikh, il a cité un verset qui est le verset 183 ou non, 181 plutôt. 181. Non, c'est pas ça. Oh, non. Désolé, c'est le verset 186 dans Surat Al-Imran. Le cheikh, il a cité le verset qui dit « La tublaouna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. » C'est-à-dire, ce qui signifie, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, c'est-à-dire que vous ayez la taqwa, hein, vous agissez avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit par crainte de son châtiment et par espoir en la récompense qu'il vous a promis du paradis, eh bien, voilà la meilleure résolution à prendre. Donc, ça c'est pour comprendre le hadith, que le verset que le cheikh a cité. C'est pour dire que Allah nous a averti que on va entendre de leur part beaucoup de choses qui vont nous nuire, beaucoup de choses qui vont nous faire du tort. Mais il nous a incité et enjoint de faire preuve de patience et de piété, hein, et non pas de réagir de la façon dont ces gens-là ont réagi. Et c'est un conseil donc pour les croyants. Hein? On entend souvent même parmi les koufars, non seulement qu'ils insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même qu'ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons le tawhid, et eux, ils sont sur le shirk. Et déjà, ça c'est le plus grand de tous les péchés, et c'est le plus grave de tous les péchés. Donc ils sont déjà dans l'égarement. Et c'est pour ça que c'est de notre devoir, si on a la capacité, de les appeler à l'islam et de les appeler au tawhid. Si, lorsqu'on les appelle à l'islam et lorsqu'on les appelle au tawhid, c'est quelque chose qui est très dur pour eux. Parce que c'est difficile pour eux d'accepter et de voir que des gens les appellent à la vérité. Donc, il faut prendre ça en considération. Aussi, il faut prendre en considération qu'ils sont plus nombreux que vous et que vous êtes une minorité dans leur pays. Et donc, il n'est pas permis dans ce cas-là de faire n'importe quoi et d'agir n'importe comment. Déjà, en partant, on sait Et c'est clair que les koufars, en général, ils détestent les musulmans et ils n'aiment pas les musulmans. Et donc, il faut prendre ça en considération. Il n'est pas correct pour les musulmans parmi ceux de ces idiots qui ont agi de cette façon-là, il n'est pas correct pour eux d'agir de cette manière-là. Mais en même temps aussi, si les gens qui sont dans ce journal-là ont un minimum de respect et de raison, ils doivent aussi retenir leurs idiots et leurs faibles d'esprit pour qu'ils cessent d'insulter le plus grand personnage, la personne la plus importante, hein, dans notre religion, qui est le messager d'Allah, celui qui a transmis le message de Dieu à l'humanité. Donc, ils doivent aussi faire leur part pour éviter justement d'inciter et d'exciter ces faibles d'esprit et ces idiots parmi les ignorants, parmi les musulmans, pour ne pas qu'ils fassent justement ce genre d'action. Et donc, le cheikh, il a expliqué par la suite que quiconque insulte la meilleure des créatures, qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est certain que ce qu'il fait, ça va créer de la tribulation et ça va créer, hein, des problèmes. Et l'islam interdit la fitna, c'est-à-dire les problèmes et les tribulations et les épreuves, et interdit de faire du tort et tout ce qui amène du tort. Et donc, il est interdit pour des musulmans, peu importe qu'est-ce qu'ils ont entendu comme insulte contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réagir de cette manière-là. Et le cheikh explique que si c'était le problème était réglé selon la charia de l'islam et selon la législation islamique, eh bien, ce serait le dirigeant du pays qui aurait appliqué la peine nécessaire sur les personnes qui ont commis l'acte de blasphème contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le fait que le dirigeant applique cette règle de l'islam sur la personne qui a commis cette transgression-là, il y a comme résultat un très grand bien. Pourquoi? Parce que c'est appliqué par le responsable et par le dirigeant. Mais lorsque ce sont des individus, des faibles d'esprit, qui se permettent d'agir de cette manière et de faire n'importe quoi, eh bien, on voit les conséquences et les résultats, négatifs de qu'est-ce qui s'est produit par la suite. Et donc, le cheikh, il nous rappelle que déjà dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de bien agir envers les gens du livre et de traiter les gens de la dhimma, c'est-à-dire les gens qui sont non musulmans, juifs ou chrétiens, et qui vivent dans les pays musulmans, de les traiter de la meilleure façon. Donc, le cheikh explique que la manière dont les gens auraient dû se comporter par rapport à qu'est-ce qui est arrivé, yani lorsque ces gens-là ont fait leur caricature, c'est qu'ils auraient dû écrire des lettres de condamnation ou de dénonciation de ces caricatures-là aux dirigeants et aux responsables, et de leur écrire en leur expliquant que pour nous les musulmans, ça c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose qui est une insulte, et donc que les musulmans n'acceptent pas et ne tolèrent pas qu'on insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils doivent exiger ou demander aux responsables des non-musulmans de yani, demander à ce que la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit respectée. Donc ça, c'est une manière islamique de régler et de gérer la situation et de régler le problème, et non pas de faire de la fitna, de faire des troubles et des tribulations et de se permettre d'aller dans la rue et de tuer les gens. Il dit à l'époque de Amr ibn al-As, lorsqu'il est rentré en Égypte et qu'il a pris l'Égypte, il n'a pas détruit les églises qui étaient là-bas, hein? Et elles existent aujourd'hui encore. Donc, il faut prendre ça en considération. Tout ça, c'est les exemples de nos sahabas. Il y a des gens dans les pays, quand les sahabas sont rentrés dans les pays des chrétiens, il y a des gens qui insultaient Allah. Parce que les croyances des chrétiens, en réalité, c'est de l'insulte, hein, pour Allah, puisqu'il lui attribue un fils, qu'il croit que, hein, il a yani, un fils et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des insultes pour Allah, puisque c'est des formes d'association et des formes d'idolâtrie que ces gens-là font. Mais malgré ça, les sahabes ne les ont pas tués. Malgré ça, les sahabas ne les ont pas tués. Et même que à l'époque des sahabas, lorsque on faisait une injustice, par exemple, si quelqu'un faisait une injustice à un non-musulman, un juif ou un chrétien, il demandait leurs droits et on leur remettait leurs droits et on les traitait avec égalité, avec justice dans l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, c'est arrivé à son époque. Lorsqu'il y a eu un conflit entre un musulman et un non-musulman, juif ou chrétien, eh bien, c'était le juif ou le chrétien qui avait raison et le musulman qui avait tort. Et Omar ibn al-Khattab a donné raison et a remis à ce non-musulman le droit qui lui revenait. Et donc, ça, c'est l'attitude, comment les sahaba ont agi, et ce sont eux, nos salafs, ce sont eux nos exemples, et ce sont eux qu'on suit. Hein? Et donc, même les chrétiens de l'époque, lorsque les musulmans, les sahaba sont rentrés dans leur pays, ils témoignaient de la justice des sahaba et de leur bon comportement et de leur bon traitement envers eux, et que parfois même le traitement des musulmans envers eux était meilleur que le traitement de leurs co-religionnaires envers eux également. Donc, ça, c'est un exemple à suivre pour nous aussi. Et il dit donc, c'est faibles d'esprit qui ont agi de cette manière-là, ils n'ont aucune connaissance de la religion. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est écrit dans plusieurs versets dans le Coran, ils appelaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sahir, ils l'appelaient kahin, ils l'appelaient toutes sortes de noms comme ça, kadhab, hein, ils le traitaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mensonge, de menteur, ils le traitaient de sorcier, ils le traitaient de médium ou des choses de ce genre. Donc, tout ça, c'était pour l'insulter. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a ordonné qu'on les tue ou a voulu qu'on les tue ou des choses de ce genre? Non. Et le cheikh l'a expliqué également que lorsque des musulmans contredisent la charia d'Allah dans les pays musulmans, on applique sur les musulmans la charia d'Allah et les règles de l'islam. Toutefois, si ce sont des juifs ou des chrétiens qui contredisent la charia d'Allah, on ne va pas nécessairement appliquer la charia d'Allah sur eux et les peines islamiques sur eux. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Et il a expliqué également aussi que, pourquoi les responsables des pays non musulmans n'ont pas puni ceux qui ont fait ces caricatures et ces insultes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au lieu de ça, au nom de la liberté, ils les ont laissés. Et donc, on a vu maintenant le résultat de ça, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé maintenant, ce genre de réaction de la part de ces faibles d'esprit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est triste et qui est dommage, mais en même temps, s'ils avaient pris les mesures nécessaires lorsque ces caricatures-là sont sorties, eh bien, il n'y aurait pas eu ce genre de réaction par la suite. Et il a cité un verset pour terminer dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs, les mouchriquines, leur paraît énorme, hein, parce que tu les appelles à s'unir sur la religion, alors qu'eux se divisent dans leur religion, puisqu'ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah, et pour eux, ça, c'est normal. Mais quand tu les appelles au tawhid, à adorer un seul Dieu, et adorer Allah seul, et s'unir là-dessus, ça, c'est énorme pour eux. Et Allah élit et rapproche qui il veut, et guide vers lui, celui qui se repent. Et donc, dans le verset, il dit « établissez la religion ». Il n'a pas dit « faites des révolutions ». Hein? Il n'a pas dit « allez faire des meurtres ». Il n'a pas dit « allez tuer ». Hein? Mais il a dit plutôt « faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de faire et ce que son messager hein, vous ordonne de faire et écartez-vous de ce qu'il a interdit ». Et donc, ça, c'est un résumé de la parole du cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna. En terminant, le cheikh également, il m'a donné comme conseil de collaborer, de coopérer avec les autres frères et les autres mashayikhs salafis en France. Il a cité Abu Islam, il a cité Cheikh Abdul Hadi et il a cité d'autres également dont je ne me souviens pas le nom. Mais il a dit de collaborer entre nous et de nous entraider dans la vérité et dans la propagation du bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et aussi, j'avais mentionné au cheikh que j'étais pas très habitué à l'accent égyptien et qu'il y a certaines choses qui m'échappaient parfois. Et j'ai bien profité de la traduction de l'autre frère qui traduisait également en anglais, puisque d'après ce que j'ai entendu, je crois qu'il est lui-même d'origine égyptienne. Je crois qu'il avait plus de facilité à saisir les différentes expressions du cheikh. Et ça a fait beaucoup rire le cheikh à ce moment-là. Donc, de toute façon, de façon générale, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on remercie les frères de Muwahidin Publications. On remercie yani les frères et le cheikh Hassan Ibn Abdul Wahhab Al-Banna yani de l'Égypte, d'avoir partagé avec nous ces informations-là et ces connaissances et de nous avoir donné ces conseils. Et donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillah. Brother Yusuf, I think we're done. Tayyib, inshallah. So I will leave you with this, and I hope you know, I ask Allah subhanahu wa ta'ala that this was, you know, that this will be something beneficial for all the Muslims who listen to it in the English-speaking community and also in the French-speaking community.